sur le DAB+.
It's alright. It's alright. Well, it's alright to have a good time. 'Cause it's alright. Oh, it's alright. Oh, and then you move it slow. When life's low. Now you got soul. And everybody know now. 'Cause it's alright. It's alright.
RFI, il est midi à Paris, 10h en temps universel.
Olivier.
Et dès le début de ce journal, on se rendra en Iran au 30e jour de la guerre. Aucun signe de désescalade. Les gardiens de la révolution menacent de frapper des universités américaines dans les pays du Golfe. À Téhéran, un missile israélien a lui endommagé le bureau de la télévision qatari Al Arabi. On sera sur place. La piste iranienne qui se précise en France, selon le ministère de l'Intérieur, après l'attentat déjoué devant la Bank of America à Paris dans la nuit de vendredi à samedi. Après l'interpellation sur place d'un mineur de 17 ans, deux autres suspects ont été arrêtés ce matin. Et puis à suivre également, reportage à Caracas au Venezuela où le siège du principal parti de l'opposition a rouvert ses portes hier. Les prémices d'une toute nouvelle ouverture démocratique près de trois mois après l'enlèvement du président Nicolas Maduro.
Arnaud Souk.
Au 30e jour de la guerre au Moyen-Orient, il n'y a donc toujours aucun signe de désescalade. L'Iran a revendiqué ce matin des attaques contre des fonderies d'aluminium à Bahreïn et aux Émirats. Pendant ce temps-là, des frappes israéliennes ont également visé la capitale iranienne. Le bureau de la chaîne d'information qatari Al Arabi a été touché. Siavosh Ghazi, vous êtes sur place pour RFI. Que peut-on dire de plus à l'heure qu'il est?
Les gardiens de la révolution ont annoncé que toutes les universités américaines dans la région seront visées en représailles aux attaques contre les universités iraniennes Des missiles ont visé hier l'université Sciences et Industries de Téhéran ainsi que l'université technique d'Ispahan. Les gardiens ont affirmé que deux universités américaines dans la région seront frappées et ont demandé au personnel et aux étudiants de toutes les universités américaines de ne plus se rendre dans ces établissements. Le gouvernement américain a jusqu'à lundi midi hors de Téhéran pour condamner les attaques contre les universités iraniennes. Sinon, nous frapperons toutes les universités américaines dans la région. Les gardiens de la révolution ont également visé les usines d'aluminium d'Emal aux Émirats Arabes Unis et d'Alba à Bahreïn en représailles aux attaques contre les zones industrielles en Iran. Ces usines sont liées au programme militaire et à l'industrie aérospatiale des États-Unis, ont affirmé les gardiens. Enfin, les médias iraniens ont publié les photos de deux officiers américains, Lake Tate et Jeffrey York, présentés pour avoir ordonné l'attaque par 3 missiles Tomahawk contre une école de jeunes filles à Minab le premier jour de la guerre. 163 fillettes ont été tuées dans cette frappe. C'est l'ambassade d'Iran qui a publié le premier ces photos avec ce commentaire. N'oubliez pas les visages de ces criminels. Sievosh Kiazi, Téhéran RFI.
Et Téhéran qui menace par ailleurs de s'en prendre à des universités américaines dont les pays du Golfe en représailles aux attaques contre les universités iraniennes. Des missiles ont visé hier des universités à Téhéran et à Ispahan, à l'Iran, qui après le détroit d'Ormuz menace aussi de s'en prendre à un autre détroit, celui de Bab El Mandeb dans le golfe d'Aden, l'un des couloirs de navigation les plus fréquentés au monde, reliant l'Asie à la mer Rouge et au canal de Suez. Les Houthis du Yémen ont quant à eux revendiqué deux frappes contre Israël hier. De leur côté, les États-Unis annoncent l'arrivée au Moyen-Orient de leur navire d'assaut amphibie, le Tripoli, accompagné d'un renfort de 3500 hommes. D'après le Washington Post, citant des responsables américains, le Pentagone se prépare à des opérations de plusieurs semaines, opérations qui n'iraient pas jusqu'à une invasion à grande échelle de l'Iran. Et toujours à propos de cette guerre au Moyen-Orient, en Syrie, les autorités ont annoncé hier avoir découvert et fermé un tunnel entre leur pays et le Liban. Un tunnel utilisé, selon elles, par des milices libanaises pour faire de la contrebande. Si le président syrien de transition, Ahmed al-Shara, a choisi de rester neutre dans le conflit qui oppose le Hezbollah à Israël au Liban, les effectifs de l'armée syrienne ont tout de même été renforcés à la frontière. Damas veut endiguer le ravitaillement du mouvement chiite en armes et éviter toute incursion de ses combattants en Syrie. Manon Chaplin.
C'est sur les hauteurs des montagnes de Kalamoun qu'Abou Omar, garde frontière, patrouille chaque jour avec son équipe. Les pieds plantés dans la neige, il montre au loin les crêtes qui marquent la frontière libanaise.
5 à 7 kilomètres plus loin, ce sont les plaines libanaises. Elles sont directement contrôlées par le Hezbollah. Sans surveillance, ces combattants pourraient avancer facilement vers ici et tenter de prendre le contrôle de nouveaux territoires. Notre principal objectif, c'est de fermer la frontière et d'empêcher tout trafic d'armes ou de drogue à leur destination.
Sur les routes sinueuses qui traversent la montagne, des tractopelles pour déblayer la chaussée, des camions chargés de guérites militaires prêtes à être installés. Abou Ralid, soldat de l'armée.
Un point d'observation est installé tous les kilomètres. À ce stade, nous pouvons dire que nous contrôlons 90% de la frontière.
Ces mêmes routes sont celles du trafic, celles utilisées pour ravitailler le Hezbollah en armes. Dans son bureau, Ralid Abastaktouk, le préfet de Yabroud, fait défiler les photos des récentes saisies.
Ça, ce sont des missiles anti-chars et ça, des anti-aviation. Trois missiles que nous avons découverts récemment. Certains trafiquants travaillent directement avec le Hezbollah. D'autres font ça pour l'argent. La plupart sont des armes volées à la chute du régime de Bachar al-Assad.
Dans ces villages frontaliers que le Hezbollah a longtemps occupés, chacun espère surtout que la guerre qui éclate à côté ne viendra cette fois-ci pas les percuter. Manon Chaplin, à la frontière libano-syrienne, RFI.
Parlons maintenant des répercussions en France de cette guerre. La piste de l'ingérence iranienne se précise après l'attentat déjoué ce week-end devant la Bank of America à Paris. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parle de similitudes dans le mode opératoire avec des actions menées dans d'autres pays européens et attribuées à l'Iran. Bonjour Marius Lafont.
Bonjour.
Un premier suspect de 17 ans avait été arrêté sur place. On apprend ce dimanche que deux autres personnes ont elles aussi été interpellées.
Et oui, ce qui porte le nombre d'interpellations à 3 dans cette affaire. Parmi eux, deux mineurs, l'un arrêté dans l'Essonne au sud de Paris, l'autre pris en flagrant délit la nuit précédente lors de la tentative d'attentat. Il tentait de déclencher une bombe bricolée avec un bidon et un gros pétard. L'identité du troisième n'est pas connue. Le parquet national antiterroriste nous confirme qu'ils sont tous en garde à vue. Sur BFM TV samedi soir, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a fait part de ses suspicions. D'après lui, un certain nombre de services iraniens sont susceptibles de mener des actions telles que celle-là au moyen de proxy. Toujours selon le ministre, deux des individus arrêtés ont, je cite, « des profils de délinquants de droit commun ». Le suspect principal a d'ailleurs expliqué avoir été payé 600 euros pour poser cette bombe. Le ministre a aussi fait le lien avec d'autres attaques contre des institutions juives ou américaines dans des pays européens, en Norvège, aux Pays-Bas ou en Belgique, un mode opératoire très proche, suivi de revendications par un groupuscule suspecté d'être lié à l'Iran.
Des précisions en direct de Marius Lafont sur RFI. Et dans ce contexte, pour la troisième fois en un an, des manifestations anti-Trump dans les rues américaines. 8 millions de personnes ont défilé hier de New York à Philadelphie, en passant par Atlanta, notamment manifestation à l'appel du mouvement No Kings, traduisait pas de roi dans le viseur des manifestants, la multiplication des conflits, mais aussi la chasse aux migrants par l'ICE, la police anti-immigration. Et dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine, cette fois, plusieurs attaques de drones ukrainiens ont fait un mort côté russe dans la région de Belgorod et déclenché un incendie dans le port russe d'Oust-Louga sur la mer Baltique. L'Ukraine a intensifié ses attaques ces dernières semaines contre des raffineries et des dépôts de carburant en Russie, en riposte aux attaques visant quotidiennement son territoire depuis 2022. Dans l'actualité également, est-ce un signe d'apaisement entre le pouvoir en place et l'opposition? Au Venezuela, les portes du siège du parti de l'opposante et prix Nobel Maria Corina Machado ont rouvert hier après 2 ans d'inactivité, près de 3 mois après l'enlèvement du président Nicolas Maduro, remplacé par la plus modérée Delcy Rodriguez. Il semblerait que le climat répressif se détende sur place. À Caracas, le reportage d'Alice Campagnol.
Nous revenons à la Maison de la Liberté. Voilà ce que scandaient les militants du parti Vente Venezuela hier. Venus de tout le pays, ils étaient quelques centaines devant cette maison des quartiers chics de Caracas, siège du parti qui était surveillé de près et avait été vandalisé après l'élection présidentielle de 2024. Hier, le public était ému.
Tous ceux qui ont été à un moment donné proches du parti ont été menacés, voire poursuivis. Et être ici aujourd'hui, présent pour ce bel événement, c'est réconfortant.
À la tribune, plusieurs membres du parti récemment libérés, ex-prisonniers politiques. Un message vidéo de Maria Corina Machado a également été transmis. L'opposante s'est exilée il y a quelques mois, mais ses partisans ne perdent pas l'espoir de la revoir entre ses murs.
L'ordre des choses, c'est que la leader du Venezuela, Maria Corina, revienne bientôt dans son pays. Nous l'avons exprimé par le vote, elle doit être notre présidente.
Cette réinauguration du siège du principal parti d'opposition, un message fort pour tous les Vénézuéliens qui espèrent le retour de la démocratie dans le pays. Alice Campagnol, Caracas, RFI.
Après sa victoire 2-1 face au Brésil, jeudi, on parle de sport, cette fois l'équipe de France de football continue sa tournée aux États-Unis à 2 mois et demi du début de la Coupe du Monde. En Amérique du Nord, les Bleus de Didier Deschamps affrontent ce soir la Colombie. Midi et presque 10 minutes, tout de suite, c'est l'heure de Religion du Monde sur RFI. Très belle journée à tous.
Tout à l'heure sur RFI.
Oh, la vie me joue des tours, essaie de faire la peau. Thank you.
Écoute, je vais te dire un truc, Jérôme. Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Ce qui veut dire « Le rock and roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Tu comprends ?
Vous écoutez Principe Actif.
Vous écoutez Principe Actif. À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9.
colored blinds, directions from the man. Street light, moonlight, sunny days, not scarce. Windows creeping open, shoelaces screaming, keep us here. Gotta be right time, yeah. Yeah. I've been working through what I feel doesn't get me there. Harsh reasons send a message, you borrow despair. Scared to leave behind companions and friends. Enemies, junkies on your knees, plenty dead ends. Oh, what are the dead ends? Right time, yeah. Invitations to sit down and stay. Return address unknown, intern identity dead. What happens when you get cold feet in the warmest environment? Where is that feeling I need?